Qu'on va commencer aujourd'hui, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, la Maseret Gittin. Une petite introduction avant de commencer la Maseret Gittin. On devrait d'abord rappeler le Pasouk qui est dans la paracha Kitetsé, qui nous parle du divorce, qui dit comme ça, qui dit « Ki ikar ish isha uveala » lorsqu'un homme se mariera avec une femme et qu'il aura des relations avec elle. « Veaya im le tim tsachen be'enav » Donc je vous dis juste le pasouk, après on va commencer. Le verset, il dit, si la femme ne lui plaira pas, ki matzaba ervat davar, puisqu'il a trouvé donc quelque chose de, littéralement, ça veut dire une nudité, une inconduite. Mais bon, comme après il y aura des marloquettes, on verra tout de suite dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on appelle une inconduite. Donc là, la chae, vekatav sefer kritut, vekatav la sefer kritut, il devra écrire pour elle, écoutez bien les mots que je suis en train de dire, il devra écrire pour elle, sefer kritut, un livre de séparation. Venatan Beyada, il devra le donner dans sa main. Veshilcha Mibeto, il devra la renvoyer de sa maison. Veyatsa Mibeto, elle sortira de sa maison. Vealcha Veaita Leishacher, et elle pourra aller et se marier Leishacher avec un autre homme. D'accord. Donc vous avez remarqué ce qu'on a dit par rapport au get. On appelait ici le get dans le pasouk. Belle musique. Alors, donc vous avez remarqué comment on appelait le get dans le pasouk. On a appelé le get Sefer Kritut. D'accord ? Oui ? D'accord. Donc on a vu qu'on a appelé le get Sefer Kritut. D'accord ? On a appelé le get Sefer Kritut. Sefer Kritut, ça veut dire un livre de séparation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on appelle ça le get. Mais dans le langage de la Gemara, get, ça veut dire simplement un contrat. Ça veut dire quoi à la base, à l'époque de la Gemara, on avait souvent des gens qui utilisaient un get dans le commerce. Parce que get, ça voulait pas dire forcément un acte de divorce. Get, ça voulait dire aussi un contrat. Bon, maintenant après, avec le temps, le nom get, on l'a gardé pour l'acte de divorce. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui a rappelé avant de commencer la Mishnah, c'est que dans le get, on a ce qu'on appelle le toref et ce qu'on appelle le tofes. C'est-à-dire, dans la structure du get, on a le toref et le tofes. Le toref, c'est le modèle du get. Ça veut dire que le get, c'est le modèle du get dans lequel le get est le même pour tout le monde. Ça, par exemple, c'est le modèle, quoi. Il n'y a pas de nom. Pas de nom, pas d'adresse, rien du tout. D'accord? Ça, c'est le modèle. On dit que, voilà, entrée a divorcé, entrée, d'accord? On dit pas qui, et il s'est engagé, etc. Bon, ça, c'est le get. Ça, c'est ce qu'on appelle le toref. Et le tofes, c'est la personnalisation du get. C'est-à-dire que, par exemple, le nom des témoins, l'endroit où ça s'est passé, la date où ça s'est passé, le nom du mari, le nom de la femme. Donc, c'est ce qu'on appelle le toref et le tofes. Pourquoi c'est important de le rappeler? C'est important de le rappeler puisque on verra après qu'il y aura des halakhot différentes par rapport à l'écriture du toref et du tofes. Ce ne sera pas toujours les mêmes halakhot. On a l'habitude d'écrire le get en 12 lignes. Et d'ailleurs, Tosfot nous rappelle que la valeur numérique de get, d'accord, donc get, on a 3 et tête, c'est 9. 3 et 9, ça fait combien ?
12.
Ça fait 12. Donc la valeur numérique de get, ça n'a pas forcément de rapport, mais Tosfot dit que c'est un remez, d'accord, c'est une allusion au fait que le get, on a l'habitude de l'écrire en 12 lignes. Bon. Alors, autre chose, avant de commencer la Mishnah.
Pourquoi faire deux sortes de contrats, là ?
Non, j'ai pas dit deux sortes de contrats. J'ai dit que dans le get, il y a deux parties. Il y a la partie qui est...
Standardisé.
C'est une seule partie, en vérité.
Adieu.
Mais dans cette seule partie, il y a une partie qui est standard, et il y a la partie dans laquelle, il y a le trait dans lequel on écrit le nom de chacun. On va voir que les halakhot ne sont pas les mêmes pour les deux. Bon. Alors, du pasouk que je viens de dire, dans lequel on a dit « Vekatavlas », donc quand un homme va se marier avec une femme, etc. De ce pasouk-là, on a appris 10 choses. 10 choses en ce qui concerne le get, qu'on aura l'occasion de développer Bezrat Hashem dans cette maseret, qui n'est pas très facile, je vous dis d'avance. Premièrement, on a appris que l'homme ne peut divorcer la femme que s'il veut le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un homme à divorcer tant qu'il ne dit pas « je veux ». Pourquoi? Puisqu'on a bien vu que le verset a dit « Ve'aya imlot imtsachen be'enav » Le verset a dit « Si la femme ne plaira pas à ses yeux ». Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit, il faut qu'on ait un consentement de la part du mari. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la femme peut être divorcée que par écrit. On est obligé de faire ça par écrit. Alors que vous vous rappelez pour le mariage, c'est pas forcément par écrit. Il y avait d'autres méthodes. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, on a appris ici que « Ve'katav la » On a dit qu'il va écrire pour elle. D'accord? Donc de là on apprend que le guet doit être écrit pour la femme. Et il y a un exemple qu'on verra plus tard. Si par exemple il y a un sofer qui est en train d'écrire un guet pour s'entraîner à écrire, d'accord? Et après, du coup, il y a des gens qui débarquent chez lui, un homme et une femme, ils veulent se divorcer, il s'avère que c'est le même nom qui vient d'écrire. Est-ce qu'il peut les divorcer avec ce guet?
Non.
Pourquoi? Parce que le guet n'a pas été écrit pour ce mari et pour cette femme. Quatrième chose qu'on apprend, c'est qu'il faut que ce soit écrit explicitement dans le get, de toute façon aujourd'hui on a un texte, mais il faut que ce soit écrit explicitement dans le get, qu'il coupe les ponts avec elle, pas de terme ambigu. Il faut que ce soit écrit clairement, explicitement, qu'on coupe les ponts. D'où on sait? Parce que la Torah a dit, Vekatavla sait faire kritout, il va écrire un livre de kritout, ça veut dire karet, on connaît le mot karet malheureusement. Karet, ça veut dire séparation, coupure. Donc il ne faut pas d'ambiguïté. Dans le get, il faut être très clair. On dit qu'on coupe complètement le lien entre le mari et la femme, qui n'ont plus aucun lien. Donc plus aucun lien l'un avec l'autre. Ça c'est quatrième point. Cinquième point, c'est que le mari a l'obligation de donner le guet, d'accord, par sa main. C'est-à-dire, s'il peut pas le faire par lui-même, il peut envoyer un shliach pour le faire. Pourquoi? Puisque la main du shliach devient comme la main du mari. Ça c'est une chose. Parce que, donc on l'a bien dit, Venatan Beyada. Le mari doit donner dans sa main. Ça c'est une chose qu'on n'a pas eu dans le kiddushin.
Boîte aux lettres, ça le fait pas.
Non, ça fait pas. Il faut le donner dans sa main. Autre chose on apprend que la femme aussi, Beyada, donc le mari doit le donner avec sa main, et la femme doit le recevoir avec sa main. Alors bien entendu, on peut passer par personne interposée, par shliach, puisque le shliach, toujours, la main du shliach est considérée comme la main de celui qui l'envoie.
Si elle ne veut pas le prendre.
Voilà, donc si elle ne veut pas prendre, elle peut envoyer quelqu'un pour aller le prendre.
Mais elle ne veut pas.
Elle est obligée. Alors on verra après, bon,
si
justement.
Elle est chaude, elle
Alors,
a le bras.
On verra après qu'il y a des techniques, par exemple, on considère que la cour d'une personne est considérée comme sa main. Donc
d'accord.
Tu jettes les choses dans sa cour, c'est considéré comme si c'était bon, ça on verra, Bezrat Hashem. D'accord? Ça c'est une chose. Ça c'était le sixième point. Septième point. Vous avez remarqué que dans le passage on a dit que non seulement qu'on va avec, que le guet, il n'y a pas d'ambiguïté, donc il faut dire clairement qu'on se sépare de la femme. On dit, Veshilcha mi beto, il va la renvoyer de sa femme. Ça veut dire quoi? De sa maison, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le guet, il faut écrire non seulement qu'on n'a plus rien à voir avec la femme, mais il faut mentionner le fait qu'on a divorcé la femme et qu'on l'a entièrement enlevée. Ça veut dire que plus rien de ce qui m'appartient lui appartient. Il faut mentionner ces deux choses-là. D'abord que j'ai plus rien à voir avec elle. Et deuxièmement que plus aucun de mes biens n'a à voir avec elle. C'est fini. On n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Oui, c'est la Torah qui l'a dit. Huitième chose, il faut donner le guet devant deux témoins. Ça, on l'apprend pas de ce pasouk-là. On verra après, c'est par un Gzera Shava. Bon, ça on verra après dans la Mishnah. Il faut donner le guet devant deux témoins. C'est-à-dire qu'il faut que deux témoins, deux personnes, soient témoins, deux personnes qui sont bar mitzvah, et qui ne sont pas frères, etc. Enfin, qui ne sont pas de la même famille. Deux témoins, il faut que deux témoins assistent, d'accord? Il faut que deux témoins, deux personnes soient témoins du moment où le mari il donne le guet à la femme. Ça, c'est huitième chose. Neuvième chose, c'est que ça c'est quelque chose qu'on va développer tout de suite dans pas longtemps, c'est qu'il ne faut pas que le guet soit mechoussar maasé. Mechoussar maasé, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que je n'ai pas le droit, par exemple, d'écrire un guet, mais de manière à ce que le guet, une fois que je le donne à la femme, le guet n'est pas prêt. Ça veut dire qu'il faut que la femme fasse un acte pour pouvoir recevoir le guet. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que j'écris le guet, je mets une poudre dessus qui fait que le guet est invisible. Non, je le donne à la femme et la femme, elle devra, je sais pas...
Ouais.
Elle devra faire quelque chose, le passer à une lumière ou je sais pas quoi pour le voir. Premier exemple. Deuxième exemple, ça c'est un exemple qui est amené dans la Mishnah. Il écrit un guet, écoutez bien, il écrit le guet sur un arbre. Sur un arbre. Et il dit, si tu veux, tu coupes l'arbre et tu le prends. Ah oui, bah c'est pas si déjà, hein, il a envie de l'embêter. Vous savez, hein, dans les divorces, des fois, on assiste à des gens qui... Bon. Alors, voilà. Donc ça s'appelle le guet, il est Mechoussar Maasé. Le guet n'est pas prêt. Le guet, il faut une action encore. Le guet n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vekata Venatan. Tu vas l'écrire et tu le donnes. Dès que tu l'écris, tout de suite, tu dois être capable de le donner. Sinon, c'est pas bon. Ça, c'est la neuvième chose. Et dixième, donc dernière chose, d'accord? C'est que le mari, quand il donne le guet à la femme, il faut qu'il lui donne en tant qu'acte de divorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le mari dans sa tête, quand il donne le guet, il dit je donne le guet, pour moi c'est comme un contrat, mais dans sa tête il réfléchit pas au fait que c'est un acte de divorce, le divorce n'est pas bon. Il faut dans sa tête de bien se rappeler que c'est un acte de divorce. C'est pas un contrat, c'est pas comme si je suis en train de faire une affaire et que bon, on a fait un contrat pour on a fait un contrat avec la banque pour démarrer, maintenant on fait un contrat pour partir. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir la kavana, et si on n'a pas cette kavana là, c'est pas bon. Maintenant qu'on a fait cette introduction, on peut démarrer la matraquitine.
Pourquoi tu rentres le fait de donner le guet à l'insu de la femme?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, par exemple, j'apporte une boîte de gâteau.
Oui.
Tiens, chérie, c'est pour toi. Et dans la boîte de gâteau, il y a la lettre de guet.
Non,
et elle prend, merci. C'est ça que je parle.
Non, il faut pas. Insu. D'accord, là, la boîte de gâteau, c'est pas de problème. Il n'est pas me roussard assez, le guet est déjà prêt.
Oui, mais elle, il faut qu'elle accepte.
Il faut qu'elle sache qu'elle reçoit le guet.
Ah bah oui, c'est
naturellement,
ça
bien sûr. Alors, maintenant, il y a quand même une exception, d'accord. Il faut savoir que jusqu'à présent, j'ai dit que que le guet ne peut se faire que par le consentement du mari. On n'a pas parlé du tout du consentement de la femme. C'est-à-dire la femme a priori, d'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, peu importe si elle est d'accord ou pas d'accord, on la divorce, d'accord. Et ce qu'il faut, c'est que le mari soit d'accord. Bon, néanmoins. Rabbeinu Gershom Meor Hagola, qui a vécu il y a un peu plus de 1000 ans, quand il a décrété un cherem, c'est-à-dire qu'il a mis en quarantaine une personne qui divorce sa femme alors que sa femme ne veut pas. D'accord, ça veut dire qu'il a mis un cherem parce que bon après
la fille.
Parce qu'on on commençait à avoir un problème à cette époque-là, c'est que les maris manquaient à l'époque de la Mishnah, on n'a pas besoin de le rappeler, les maris respectaient leur femme. On commençait à avoir un problème que les maris jetaient leur femme comme ça, donc. Rabbeinu Gershom, il ne peut pas rajouter un interdit, puisque la Torah ne l'a pas dit, mais il a mis un cherem. Il a mis un cherem, c'est-à-dire qu'il a mis en, il a décrété que celui qui divorcerait sa femme sans son consentement, alors que la femme n'est pas d'accord, on décrète un cherem sur lui. On le met en quarantaine, excommunication. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de l'accord de la femme. Et si la femme ne veut pas, c'est très compliqué. Il y a ce qu'on appelle le Heter Mea Rabbanim aujourd'hui.
Ça, c'est pour les Ashkenazim.
Hein. Le quoi?
Non,
je parle pas de la bigamie.
De la polygamie.
Ouais.
La polygamie, c'est le même rave.
Là?
La polygamie, la monogamie, Ashkenaz,
c'est le même rave. Oui, c'est le même rave. Ouais. Mais ça, Rabbeinu Gershom, ce détail de Rabbeinu Gershom, tout le monde a accepté. D'accord? Donc aujourd'hui, bon, comment on fait si on a divorcé? Ça arrive à un ami à moi, il a beaucoup souffert du présent dans son divorce. Sa femme ne voulait pas divorcer, pour l'embêter, elle ne voulait pas divorcer. Ça durait un an et demi, elle ne voulait pas divorcer. Alors qu'il était évident qu'il devait divorcer, quoi, c'était fini déjà. Alors il y a ce qu'on appelle Heter Mea Rabbanim. Heter Mea Rabbanim, ça veut dire que le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a un cherem, vous venez de dire. C'est que celui qui divorce sa femme sans son consentement, il est excommunié. Il y a une exception, c'est que si on a la permission de 100 rabbanim, il faut 100 rabbanim, c'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué. Si on a 100 rabbanim qui signent sur un papier dans lequel ils s'engagent, d'accord ? C'est très très long, ouais, c'est très très long. Dieu préserve, c'est...
Bon,
non, je pense pas, non. Heter Mea Rabbanim, il faut que 100 rabbanim signent ou donnent leur consentement, donnent leur accord, et là, dans ce cas-là, le cherem n'aura pas lieu, parce que s'il y a 100 rabbanim contre un cherem, ça fait sauter le cherem, ça fait sauter l'excommunication. Mais sinon, c'est très très dur. Voilà. Maintenant qu'on a compris ça, on démarre la... Ah oui, en vérité, il y a un point encore que je voulais rappeler, parce que si je ne rappelle pas tous ces points, après, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas dans la Maseret Gittin. C'est que de manière générale, il y a deux types de contrats. Il y a ce qu'on appelle shtar reiya et shtar kinyan. Je veux dire comme ça. Il y a des contrats qui servent en tant que preuve. Par exemple, quand je fais une affaire avec quelqu'un et je signe un contrat. À quoi il sert le contrat? Le contrat n'a rien fait ici. Le contrat sert seulement de preuve. C'est-à-dire que si un jour tu me diras tu t'es engagé, j'ai une preuve, j'ai un contrat. Mais le contrat ne forme aucune acquisition. De manière générale, dans une affaire. Le contrat ne fait pas d'acquisition. Ce qui fait l'acquisition, c'est le fait que je vais prendre l'objet, que je vais déplacer, etc. Ça, c'est une première catégorie de contrat. On a une deuxième catégorie de contrat, qui est ce qu'on appelle un shtar kinyan. Ça veut dire un contrat qui va former une acquisition. Comme le cas du guet. C'est-à-dire que le contrat n'est pas simplement une preuve que si la femme un jour, voudra se remarier, on lui dira, madame, prouve-nous que vous avez été divorcée. Elle dit, voilà, j'ai la preuve. C'est pas seulement une preuve. C'est également un kinyan, ça veut dire que le contrat fait quelque chose. Le contrat, c'est le contrat qui va divorcer. C'est important de comprendre ça, parce qu'il y aura des nuances qui vont se jouer autour de ça dans la Mishnah tout de suite, dans le premier chapitre.
J'ai pas compris, t'as dit qu'un contrat, ça fait pas preuve d'acquisition?
Non, j'ai dit qu'il y a deux types de contrats. Il y a un premier type de contrat qui sert en tant que preuve. C'est en tant que preuve. Et il y a un deuxième type de contrat qui forme une acquisition. Tu vois comment je veux dire?
Oui.
C'est un contrat, par exemple. Tu fais une transaction avec quelqu'un. La transaction, tu l'as faite. Donc c'est la transaction qui vaut. Pourquoi on te donne un contrat, un reçu? Parce que le reçu, tu dis, voilà, si un jour, t'as un problème, t'as un reçu, t'auras une preuve.
On a dit que le contrat, ça marchait pour...
Oui, on dit que dans le get, c'est un contrat particulier. C'est un contrat, c'est pas un contrat qui sert en tant que preuve, c'est un contrat qui forme, c'est un contrat qui va former l'acquisition. C'est un contrat, ce qu'on appelle un shtar kinyan, c'est-à-dire c'est un contrat qui va former l'acquisition, c'est un contrat, c'est le contrat qui va divorcer. Le contrat ne sert pas uniquement en tant que preuve. Tu le comprends? Bon, tu vas comprendre. De toute façon, on va en parler dans pas longtemps. Alors, la Mishnah dit comme ça. Elle dit, Ameviget, Mimdinat Hayam. Donc, un homme qui a envoyé un get à sa femme, Mimdinat Hayam. Donc, on a ici, imaginez-vous qu'on est à Paris, et on a quelqu'un de New York qui vient ici. Mimdinat Hayam, donc ça veut dire le côté de la mer. Donc, on a quelqu'un de New York qui vient ici, d'un pays qui est très loin. Vient nous voir et qui nous dit, voilà, donc il y a un mari qui est à New York, il est parti à New York, et il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui n'est pas le mari, qui vient voir la femme, et lui dit, ben écoutez, je viens de la part de votre mari pour vous divorcer. Donc c'est le chliar du mari. D'accord? C'est bien. Donc, Ameviget Mimdinat Hayam. Une personne qui amène un get, Mimdinat Hayam, donc du pays, Mimdinat Hayam, ça veut dire d'un pays qui est derrière la mer. Ça veut dire d'un endroit qu'on n'a pas la possibilité d'aller vérifier si ce que le chliar il dit, si ce que le missionnaire dit c'est vrai ou si il dit c'est faux. On sait pas, on n'a pas le téléphone à l'époque. Sarir Shiyomar, le missionnaire doit dire Efanai Nirtav ou Efanai Nirtam. Cet émissaire-là, Obeddin, donc il va Obeddin de la ville, de Paris, par exemple, dans mon exemple, et avant de donner le get à la femme, donc on va convoquer la femme bien entendu, avant de donner le get à la femme, il doit dire Befanai Nirtav ou Efanai Nirtam. Il doit dire devant moi le get a été écrit. Et devant moi, le get a été signé. D'accord? Pourquoi il doit dire les deux? C'est la
Gemara. Pour pas qu'il y ait un faux.
Voilà. Non, c'est pas seulement ça. S'il ment, il peut mentir comme il veut. Pourquoi il doit dire que le get a été écrit? Pourquoi il doit dire que le get a été écrit, Befanai Nirtav? C'est très simple. Parce que, vous avez bien compris, tout à l'heure, quand je vous expliquais que, on a le toref et le tofes dans le get. On a le modèle du get et on a les noms. Les noms, donc les signatures, etc. Et le problème qu'on a, c'est que on sait pas si à New York, les gens qui sont à New York savent que le get, il doit être écrit de A à Z pour la femme. On sait pas. Donc puisqu'on sait pas, quelle technique on va trouver, on va demander au témoin, est-ce que vous avez assisté à cette personne-là, ce schlaire-là, est-ce que vous avez assisté à l'écriture et à la signature du get? Comme ça, on est sûr que tout a été fait pour cette femme.
Tu veux dire qu'on peut pas faire un get en blanc?
Non.
Donc. Impossible.
Il faut le faire pour
avec
la femme.
Avec des cases blanches. Après
pour la femme. Pour l'instant, en tout cas. Hein. Pour l'instant, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc, le shliar doit dire, Befanan Nirtam, devant moi, il a été écrit, devant moi, il a été signé. Comme ça, on sait que ce get a été fait pour cette femme. Mm-hmm. Très bien. Rabban Gamliel, il dit, Af amevi minarekem ou minareger. Il dit, le principe qu'on vient de dire, qu'il faut, en d'autres termes, ça veut dire qu'on doit enquêter pour savoir est-ce que le get a effectivement été écrit de A à Z pour la femme. Et Rabban Gamliel dit que ce principe-là s'applique également quand on amène un guet, mina rekem ou mina cheger. Alors, mina rekem ou mina cheger, c'est quoi? C'était des villages qui étaient à proximité des Eretz Israël. Ils étaient, pour être précis, ils étaient du côté est des Eretz Israël. Du côté est des Eretz Israël, il y avait une ville qui s'appelle Rekem et Cheger. D'ailleurs, c'est des villes qu'on en parle dans la Torah. Le mot Rekem et Cheger, c'est des villes qu'on en parle déjà dans la Torah. Donc, c'est les extrémités. Donc, il dit comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, j'ai jamais vérifié. En tout cas, il y a une ville qui s'appelait Rekem et Cheger. Je sais pas à quoi ça correspond.
C'est des villes frontalières en vérité.
Oui, mais je sais pas quelle ville c'est aujourd'hui.
Ouais.
Mais
c'est des villes frontalières, voilà. Où il y avait beaucoup d'ignorants.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabban Gamliel? Rabban Gamliel nous dit, même si une personne amène une Rekem ou une Cheger, ça veut dire d'une, selon le premier avis, on a dit que c'est seulement si tu amènes un pays lointain. Mais si tu amènes un pays qui est proche, on considère que plus on est proche d'Eretz Israël, et plus les gens, on peut s'assurer qu'ils connaissent la halakha. Donc, le premier, il a dit, qui c'était le premier? C'était un Akama. Il a dit, celui qui amène d'un pays lointain. C'est-à-dire seulement si c'est un pays lointain que là vraiment, on ne sait pas s'ils connaissent la halakha. Que le guet doit être écrit de A à Z pour la femme. Rabban Gamliel va plus loin, il dit non, même si c'est une ville qui est frontalière à Eretz Israël, On peut se douter peut-être qu'eux aussi là-bas ne connaissent pas la halakha, ils savent pas que le guet doit être écrit de A à Z pour la femme, puisque c'est exceptionnel, quoi. Il n'y a que dans le guet, c'est comme ça. Dans les autres contrats, c'est pas comme ça. Dans les autres contrats, ce qui compte, c'est la signature. Il faut que la signature soit faite, mais à part la signature, peu importe, ça ne nous dérange pas. Donc, Rabbin Gamliel, il pousse, il dit, même si ça vient des villes frontalières d'Eretz Israël, il faut enquêter pour savoir est-ce qu'il a été écrit de A à Z pour la femme. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, « Afilu mikfar Loudim l'Eloud. » Même si c'est de Kfar Loudim à Loud. Alors, c'est quoi Kfar Loudim ? Kfar Loudim, c'est une ville qui est en dehors d'Eretz Israël, mais qui est très proche à Loud. Loud. Vous connaissez Loud en Eretz Israël, très bien. Donc, c'est une ville qui est...
Lod.
Lod. Au Jordan, on appelle ça Lod. À l'époque, la Mishnah, c'était Loud. Donc c'est une ville qui est très proche de Loud. Ça veut dire en d'autres termes. Aujourd'hui j'aurais dit par exemple Eilat, d'accord? Eilat Eilat c'est pas sûr que ça fait partie d'Israël, c'est peut-être un bon exemple. Mais voilà, on va dire Tzfat par exemple, d'accord? Tzfat, ça fait partie d'Israël, mais c'est pas loin de la frontière. On n'est vraiment pas loin de la frontière. Alors puisqu'on n'est pas loin de la frontière, ou bien Akko, etc. Donc on n'est pas loin de la frontière. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer il dit même si il y a une personne qui vient t'amener un guet, d'accord, d'une ville frontalière, mais il amène à la ville juste à côté. C'est-à-dire, du coup, c'est deux villes à côté, quoi. Il y a quelques kilomètres qui les séparent. Selon Rabbi Eliezer, il faut quand même enquêter. Parce qu'on considère que tout ce qui vient pas d'Eretz Israël, on ne sait pas si les gens connaissent la Halakha comme il faut. Va Chachamim Omrim. Donc ça, c'était, on a eu trois avis, maintenant on a l'avis de Chachamim. Chachamim, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, et notre Sarir Sheyomar, Befanaï Nirtav, ou Befanaï Nirtav. Chachamim, ils disent...
même d'un pays à un autre pays, et ça va pas du tout en Israël.
Ça, c'est une autre question.
Parce que c'est ce qu'il dit, là.
Non, c'est une autre question. Là, pour l'instant, on a vu que ça tournait autour d'Eretz Israël.
Attention.
Là, pour l'instant, ça tournait autour d'Eretz Israël. C'est une autre question, ça. Là, c'est une autre question. Loran, il dit comme vous, Rabbeinu ici, mais pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est une autre question. Est-ce que Eretz Israël ici, c'est exact, ou bien ça aurait été valable avec n'importe quel autre pays? C'est une question, ça. Donc... Alors, Rachamim ils disent, et notre sarir shayomar, befanaï mirta, befanaï mirtam. Ils disent que, le témoin n'a pas du tout besoin de dire, befanaï mirta, befanaï mirtam. Devant moi, il a été écrit, devant moi, il a été signé. Et là seulement, à mevi, bimdinat hayam, vehamolir. Donc, eux, ils disent comme ça. Ils disent que les seules personnes qui ont besoin de dire, befanaï mirta, befanaï mirtam, c'est celui qui amène, bimdinat hayam, ça veut dire d'un pays, donc,
lointain.
Vehamolir est celui qui amène de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chachamim, en vérité, ils sont partis plus loin que tout le monde. Chachamim, ils ont dit que, et là, donc on arrive un petit peu à ce que le Rabbeinu Nissim a dit, à ce que le Ran a dit, ce que M. Bishmut a dit. Chachamim disent que c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que ce soit qu'on aille de Eretz Israël à Paris, ou que ce soit qu'on aille de Paris à Eretz Israël, le problème se pose. Parce qu'a priori, jusqu'à présent, on a expliqué que plus on s'éloigne d'Eretz Israël, et plus ça va poser de problème. Les Chachamim disent non. Même si c'est le contraire, même si c'est quelqu'un d'Eretz Israël qui va amener un guet à Paris, donc là, vous allez me dire, c'est bon, en Eretz Israël, on connaît. Les Chachamim disent, on a quand même interdit. Pourquoi? Pour pas que les gens après se mettent à faire l'erreur de dire, la réciproque est valable. Ça, c'est Chachamim. Donc ça, c'est, ils sont partis le plus loin, en vérité. Vamevi, Mimdinat Hayam. Maintenant, on a l'autre cas maintenant. Si maintenant quelqu'un amène d'un pays à l'autre, Mimdinat Hayam. Là, on a par exemple, imaginez-vous un cas, si on a par exemple quelqu'un va amener de la France à la Belgique. Mais on n'est même pas en Eretz Israël. Donc c'est toujours pas le cas de Rabbeinu Nissim, parce que ce que Rabbeinu Nissim, il a dit, c'est qu'en vérité, ce que la Mishnah nous a donné un principe ici, c'est que quand on a un pays dans lequel on sait qu'on connaît la Halakha, jusqu'à combien on peut s'éloigner pour dire qu'on considère que les pays avoisinants connaissent aussi la Halakha. Vous comprenez? Alors ça, c'est une autre question. Est-ce que ça s'applique que sur Eretz Israël ou sur rien? Ça, je rentre pas dedans. Maintenant, on pose une simple question. Si quelqu'un, il amène un guet de la France à la Belgique. Oh, c'est deux pays, d'accord? Dans le Mudinataya. Ça arrive chez moi, là, il est évident dans tous les cas, tout le monde est d'accord, que le témoin devra dire, devant moi, le guet a été écrit, devant moi, le guet a été signé. Ça veut dire, en d'autres termes, quand on est en dehors d'Eretz Israël, on fait confiance à personne. Il faut toujours enquêter. Est-ce que le Beit Din duquel on amène le guet, est-ce qu'il connaissait comme il faut la halakha? On fait pas confiance. La halakha de guet est très grave. Il faut bien comprendre que pourquoi. On verra qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on fait très attention dans la halakha de guetin, parce que si le guet n'est pas bon, il préserve les enfants qui suivront. Si elles se remarient, sont mamzères. Il n'y a pas de cadeau. D'accord. Si le guet n'est pas bon, il n'y a pas de cadeau. Donc, c'est pour ça qu'on fait très attention à ça. Donc on fait pas confiance. Donc c'est pour ça que quand on est dans deux pays différents en dehors d'Eretz Israël, toujours il faut enquêter, il faut bien s'assurer que le guet a été écrit de A à Z pour la femme.
Et aujourd'hui, ils nous font un peu plus confiance ou pas aujourd'hui?
Aujourd'hui aussi, c'est dire. Très dur aujourd'hui.
Non, mais...
Parce qu'on a encore plus d'ignorance qu'avant.
Ah bon? On traite le sujet, pourquoi on va d'un endroit à un autre, c'est interdit pour ce qui est de... Mais on ne dit pas pourquoi, justement, c'est...
Pourquoi?
Pourquoi il faut que soit écrit et...
Ah, c'est Xerat HaKatuv, ça. C'est la Torah qui a dit, parce qu'on a dit, le pasouk qui a dit, « Vekatavla sefer kritout ». Je l'ai dit dans l'introduction, je ne sais pas si tu as entendu.
Oui, tu l'as dit dans l'introduction.
C'est la Torah qui a dit.
D'accord, ah c'est ça. D'accord.
On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison.
La Torah...
Non, on dit non, les paroles s'en vont, mais
ça
les
me va. Restent. Il n'y a pas de raison, ça va.
Rabban Shimon ben Gamliel Omer, « Afilou me'agmonia l'agmonia ». Rabban Shimon ben Gamliel, il va plus loin que ça. Il dit même dans la même ville. Mais si c'est Meagmona l'Agmonia, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un quartier, d'un district à l'autre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si, d'accord? Mais bien entendu, quand je dis un district, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux chefs, d'accord? Il y a deux chefs dans chaque district. On considère que, même si le Beddin d'un district est compétent, c'est pas pour autant que l'autre sera compétent. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un il amène un guet, d'accord, il amène un guet de la Belgique.
Là, ici, ça va pas.
Il amène un guet de la Belgique à ici, par exemple. Non.
Ah,
là, ça va, parce que les districts, par exemple, Paris-Lyon, oui. Paris-Lyon, c'est deux Belgiques différentes.
Et là, c'est deux maires différents.
C'est deux?
Deux maires différents. Paris-Presse, et alors, c'est
différent.
Oui, bon, c'est deux villes qui suivent le même Beddin. On a le même Beddin.
C'est le même Beddin. D'accord. C'est pour le Beddin, oui.
Oui, pour le Beddin, c'est le même.
Oui, c'est vrai.
Par contre, à Lyon, c'est un autre Beddin. Donc là, si on a quelqu'un qui vient de Lyon, un Schler qui vient de Lyon, qui dit voilà, on a signé à Lyon, donc, à l'époque on n'avait pas le téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut enquêter pour savoir, pour s'assurer que le guet a été écrit de A à Z, parce qu'on dit nous le Beddin de Lyon on ne connaît pas. Peut-être qu'il y a un jour il y a un ignorant qui est venu faire rabbin là-bas et il ne connaît pas la halakha. Alors de manière générale, on fait confiance, hein, faut savoir, c'est une exception. Hein. En général, quand quelqu'un vient avec un contrat d'un Beddin, on fait toujours confiance, on ne pose pas de questions. Mais sur le guet, comme c'est très très grave, et qu'il y a des halakhot très compliquées, et que pas tout le monde connaît. C'est pour ça que d'ailleurs la Gemara elle dit, dans le traité Kiddushin d'ailleurs, qu'on a fini, elle dit que Kol mi she'eino yoda betiv ki gitiv et Kiddushin, avitasek imaem. Elle dit toute personne qui ne s'y connaît pas en divorce et mariage, qui ne touche pas. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a très peu de rabbanim qui connaissent la halakhot de mariage, de divorce à fond, c'est eux qui s'en occupent. C'est qu'eux qui s'en occupent. C'est pas n'importe quel badine de quartier qui fait ça. Parce que c'est de la route très très grave. C'est de la route très très grave qui, Dieu préserve, ça peut amener des choses très graves. Donc ça c'est pour la Mishnah Aleph. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera à Bezrat Hashem, la prochaine Mishnah Aleph.
À partir du moment où il dit qu'il a